Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Michel Guénard, bonjour.
Bonjour.
Donc, nous avons consacré une première émission avec vous sur les fondements, les origines de ces deux libéralismes. Donc, le libéralisme politique d'une part, qui est premier, et le libéralisme économique d'autre part. Donc, je rappelle que vous êtes universitaire, avocat dans un prestigieux cabinet d'avocats, et que vous poursuivez de livre en livre une réflexion à la fois sur le pouvoir et sur le libéralisme. Donc, dans ce livre, les deux libéralismes, un certain nombre d'éléments me semble être intéressant pour bien comprendre ce dérèglement génétique presque du libéralisme qui le conduit à ce qu'on appelle bêtement peut-être, mais peut-être en le critiquant, l'hyper-libéralisme, libéralisme débridé, voilà. Alors, première question pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, en revenir, parce que tel est votre souhait, à un libéralisme plus équilibré, qui ne met pas uniquement l'accent sur le marché, au détriment, sans doute, peut-être, de l'individu. Il me semble, quand on regarde la première émission que nous avons pu faire ensemble, que la difficulté intrinsèque du libéralisme, c'est d'ajuster au mieux l'individu au risque de l'individualisme, la liberté au risque de se dissocier du commun, et l'intérêt individuel qui serait naturellement, dit Adam Smith et surtout Mondeville, qui serait naturellement en accord secret, mystérieux, invisible avec l'intérêt général, donc au risque de faire prévaloir l'intérêt particulier sur l'intérêt général. Alors, comment est-ce que vous voyez, au regard de ce que nous avons vu dans la première partie, donc sur les deux libéralismes, cet ajustement ou ce désajustement, cette synthèse ou cette désynthèse entre ces trois éléments qui laissent à supposer qu'il y a une forme d'instabilité génétique au sein du libéralisme.
Il y a eu davantage un dépassement qu'une instabilité propre révélée dans la période récente. Quand on revient sur les grandes étapes fondatrices du libéralisme, on a particulièrement sous l'œil trois grandes révolutions historiques que l'on a appelé les révolutions libérales, la révolution d'Angleterre, la révolution française et, quelque temps avant la révolution française, la révolution d'Amérique. Dans ces trois révolutions, ce qui est frappant, c'est qu'on voit apparaître un groupe central d'individus qui partagent des valeurs communes, un groupe central qui a une très forte homogénéité. Alors, dans la révolution d'Angleterre, c'est essentiellement les parlementaires anglais, qui sont des fermiers, qui ont une activité marchande. Dans la Révolution américaine, ce sont aussi des fermiers, les Anglais qui sont arrivés, qui commencent à bâtir une économie américaine. Et puis, dans la Révolution libérale française, la Révolution de la première partie, on voit un certain nombre de nobles éclairés, post-physiocrates, de bourgeois acquis aux Lumières, est représenté par un certain nombre d'hommes politiques, de représentants à l'Assemblée constituante. Ce groupe central, il a permis les trois révolutions libérales dont nous parlons, ce même groupe central, parce qu'il avait une cohésion et une certaine préparation à l'exercice de la liberté. Leur projet de la liberté appartenait à un tissu, à un contexte social très fort. Quand on voit aujourd'hui ce qui se fait dans le monde, on s'aperçoit que ce libéralisme n'appartient plus à aucun cadre. Les groupes qui l'exercent n'ont pas l'homogénéité ni la préparation qui permettrait de l'exercer. En vérité, ils ont totalement dépassé les fondamentaux. Ils ont pris tout le luxe ou les bienfaits du marché sans prendre la rigueur et la préparation qui étaient antécédentes.
Donc là, vous parlez de l'hyperlibéralisme, quand on le dit bêtement.
Oui, du néo-libéralisme.
Plutôt.
Absolument, parce voilà. Qu'en réalité, un certain nombre d'universitaires, un certain nombre d'intellectuels ont poussé l'aventure libérale en oubliant un certain nombre de postulats historiques. Alors, quand est-ce que c'est arrivé? Je pense qu'indiscutablement, la révolution libérale de notre temps est intervenue avec les grandes réflexions des économistes autour de Gerald Ford et essentiellement, évidemment, le travail de déréglementation des secteurs collectifs de l'administration de l'économie américaine par Reagan, suivi par Thatcher. Et c'est un mouvement qu'on voit très très bien naître, et on voit naturellement que toute la dimension morale, toute la dimension de prudence qui habitait les libéraux sont totalement oubliés de ce projet libéral récent. Et c'est pourquoi je trouve que le néolibéralisme, il est un peu au libéralisme ce que, toute proportion gardée, le communisme serait au marxisme. Le marxisme, avec ses deux auteurs, Marx et Engels, ce sont des pages de philosophie totalement respectables. Le communisme a été une abomination de cette pensée, même si le communisme était en germe dans la pensée marxiste. Et j'ai souvent le sentiment que le néolibéralisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, et pardon de le dire, tel que je le vois concrètement de par mon métier, être pratiqué par certains acteurs du capitalisme financier, me semble correspondre plus à un dépassement, à un dévoiement, à un oubli des racines historiques que à quelque chose qui se révélerait, mais qui était dès l'origine dans la pensée libérale.
Alors, vous insistez beaucoup, ça étonne effectivement le lecteur, sur la question de la morale, de la composante morale du libéralisme. Je vous cite, page 17, dans votre introduction, « Le projet des libéraux fut d'organiser une société centrée sur les individus et naturellement sur les droits de ces derniers. Il s'est agi de penser une société des individus autonomes du pouvoir de l'État. Ce projet était la moitié de leur entreprise. La seconde moitié était de nourrir l'exercice des droits des individus par une certaine correction morale. » Et donc, vous insistez beaucoup, c'est pour ça que je voudrais que vous développiez ce point-là, sur, je vous cite, page 88, « La morale du libéralisme ne vient pas d'en haut. » Page 91, « Il faut juger l'homme libéral comme un être moral. » Donc, le libéralisme, pour vous, est aussi, deuxième composante, une morale. Mais la question qui se pose, c'est de dire, est-ce que, dans la première composante du libéralisme, la morale n'est pas une résultante des intérêts individuels qui agissent, comme le dit Mandeville, pour le bien-être collectif, plutôt que quelque chose qui serait imposé ou nécessaire et qui viendrait dans la conscience des individus quand ils agissent?
Je ne le crois pas, pour deux raisons. La première, c'est que beaucoup d'auteurs parlent expressément de l'éducation. Montesquieu a des pages sur l'éducation. Benjamin Constant a des pages sur l'éducation. Donc, tous sont conscients que la liberté ne va pas sans une préparation à l'exercice de la liberté. Par ailleurs, quand on dit que, effectivement, quand on interprète a posteriori les démonstrations, notamment d'Adam Smith sur « puisque tous les hommes concourent à leur bien personnel, naturellement, ensemble, ils concourent à un bien général, à un bien collectif, et ça, c'est une utopie, et ça, c'est pas sérieux », on oublie que quand Adam Smith pose que les hommes concourent à leur bien, c'est dans un contexte, dans un tissu, dans un cadre moral et social qui leur est propre. Ce ne sont pas des barbares sur une lande, nus. Ils appartiennent à un milieu. Et quand on dit que par détermination, ce qu'ils font va profiter à la collectivité, c'est par détermination dans un contexte qui les a prédestinés à. Alors, de notre temps aujourd'hui, nous avons un libéralisme qui fait mal aux libertés et à la société parce qu'il a oublié ces deux points. Il a oublié l'éducation et il a oublié que la liberté ne se pratique pas en dehors d'un certain contexte qui y prépare. Aujourd'hui, on voit notamment que le libéralisme économique est pratiqué par tous les régimes du monde, indépendamment des régimes politiques eux-mêmes dans les nations. On a par exemple avec la Chine la démonstration concrète que le libéralisme économique peut cohabiter avec un régime politique qui n'est pas libéral. Et je pourrais citer d'autres exemples de cette disharmonie. Ce qui frappe, c'est qu'on a voulu prendre de la pensée libérale ce qui profitait uniquement à la création des richesses dans une nation. Mais je le répète, on a oublié cette dimension qui fait qu'un individu a exercé sa liberté avec une prudence, la tolérance des autres et une certaine éducation.
Mais justement, c'est la question que l'opinion publique a du mal à comprendre. Est-ce qu'il y a eu oubli de l'éducation des individus, donc de la morale dont vous parlez, ou est-ce qu'il y a eu émancipation, une pensée libérale qui va jusqu'au bout d'elle-même et qui considère que la morale revient à la sphère privée, qu'on n'a plus à être moral et qu'on l'est malgré soi.
C'est l'ambivalence du libéralisme. Je pense qu'il y a indiscutablement, je reprendrai le deuxième terme de votre alternative pour le citer d'abord, il y a indiscutablement une sorte d'accomplissement. On a fait la conquête et le combat de la liberté parce qu'on voulait résister à un pouvoir. Et derrière cette résistance, on a voulu bâtir un statut positif à part entière de la liberté. Et puis, cette liberté, on a voulu la traduire dans des facultés concrètes, des capacités réelles d'exercer, comme l'a parfaitement décrit à la fois John Rawls et Amartya Sen, comme ils l'ont décrit tous les deux, cette idée de capacités réelles qui, aujourd'hui, sont l'expression des libertés, mais les dépassent parce qu'on n'est plus au stade des libertés formelles du XIXe siècle, on est au stade des capacités réelles offertes à l'individu. C'est vrai que là, il y a une linéarité historique, un déterminisme historique certain. Alors c'est vrai qu'en poussant, en poussant, en poussant, parfois, on oublie totalement la trajectoire. Alors, est-ce qu'il y a cet oubli ? Est-ce qu'il y a cet oubli ? C'est très difficile d'avoir un jugement net sur ces sujets-là. Parce qu'il y a encore de grandes démocraties occidentales libérales qui ont un vieux fond religieux et éthique. Aux États-Unis, vous avez certaines valeurs et un certain événement médiatique concernant un ancien directeur général d'une organisation internationale l'a montré parfaitement. On ne peut pas, comme ça, juger nettement que le libéralisme en Amérique a quitté toute morale. C'est faux. Il y a encore des jugements moraux, il y a encore une sorte d'accompagnement ou un encadrement moral de l'exercice de la liberté dans cette démocratie. Vous voyez, c'est compliqué. Simplement, ce qui est clair, c'est que les acteurs, pour dire simple, les acteurs qui ont été déterminants dans les conquêtes du libéralisme ces 20 dernières années ont souvent été des gens qui cherchaient leur bien privé, ni plus ni moins, et n'ont pas eu le souci d'une pensée de la société. Ce qui fait le plus grand tort aux libéraux aujourd'hui, c'est que ils ne regardent que les bienfaits qu'apporte la loi du marché à la richesse d'un individu, de l'individu, du seul individu, mais qu'ils n'ont plus de projection, de conception ou de construction de la société. Il n'y a plus de projet libéral qui réfléchisse à l'organisation d'une société libérale. Le libéralisme est réduit aujourd'hui à un catéchisme des droits absolus de l'individu et nullement à la réflexion d'une cité des hommes. C'est sans doute un des défis de l'avenir. Il ne sera pas de refuser ou de réduire le marché. Il ne sera pas de revenir à un tout État. Il y a d'ailleurs toujours eu une présence de l'État dans la construction des libéraux. Il sera vraiment que ces hommes que l'on veut armer de droits absolus et de bienfaits absolus par la loi du marché, il faut leur réapprendre à vivre ensemble dans une cité commune. Et ça, ça manque indiscutablement à la réflexion libérale contemporaine.
Alors là, on a un peu d'hésitation ou de difficulté à comprendre ce que vous dites. C'est que quand on regarde historiquement, cette bifurcation, cette séparation, elle s'est faite où ? Aux États-Unis. On va y venir, Milton Friedman, l'école de Chicago, Reagan, etc. Bon. Mais les États-Unis sont justement le pays, un, qui a la plus grande religion civile au monde, c'est les États-Unis. Deux, la plus grande conscience religieuse, 99% des Américains sont croyants. Trois, la plus grande morale, si l'on veut. Et c'est pourtant la même où, effectivement, cette bifurcation, cette séparation s'est opérée. Alors, comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe américain d'une société morale, religieuse, qui a conscience de vivre en communauté, en société, en nation, et qui, en même temps, est l'endroit même où s'est passée cette séparation entre les deux libéralismes ou cette déformation du libéralisme économique ?
Mon explication est que le libéralisme a été capturé par un petit nombre d'acteurs qui ont poussé jusqu'à leur extrême limite les règles tant politiques, le débat, la surenchère, la concurrence entre les partis, que économiques, le marché, le marché, le marché. Et si vous avez une société américaine qui est profondément puritaine, religieuse, comme vous le dites justement, vous avez un certain nombre d'acteurs qui l'ont trompé. Alors, on le voit aux États-Unis, mais on le voit aussi dans d'autres États. On a indiscutablement quelques acteurs aujourd'hui qui capturent le débat politique. Il n'appartient plus aux sociétés. Capturent la distribution des richesses. Cette création n'appartient plus ou n'est plus suffisamment distribuée pour être celle de nations toutes entières. Et on a un glissement vers un sujet qui me préoccupe beaucoup et peut-être sera celui d'une prochaine publication, qui est celui du statut de l'exemplarité dans une société. Car en fait, ce qu'on voit concrètement aujourd'hui être peut-être un développement futur de la réflexion ou de l'attention d'une réflexion libérale, c'est que puisque les individus sont tout, puisque la fatalité est que certains individus dominent d'autres, est-ce qu'on ne peut pas sauver, au final, l'aventure libérale en exigeant de ceux qui ont la chance de capter le monopole de la politique et le monopole de l'économie, l'exigence d'être exemplaires et de diffuser à partir de leur comportement de la justesse libérale. Alors on reviendra peut-être de cette façon à cet équilibre qu'avaient voulu les plus inquiets des bâtisseurs du libéralisme, évidemment à commencer par Tocqueville, qui ne voulait pas que le libéralisme soit cette soif des avertis, mais soit le statut qui accompagne la dignité d'un homme dans une société. Et peut-être aujourd'hui, finalement, et ça c'est un point qui est absent de beaucoup de réflexions, la démocratie aura un avenir dans l'exemplarité de ceux qui en auront la responsabilité.
Alors, pour nos auditeurs, expliquez-nous bien comment, aux États-Unis, autour de l'école de Chicago, autour de Milton Friedman, il y a eu là aussi quelque chose qui s'est opéré et qui s'est retrouvé donc au moment de Reagan, parce que voilà, et qui laisse à supposer que le marché, tout le marché, rien que le marché, semble être devenu la nouvelle religion libérale économique.
Le cycle est bien connu. Comme vous le savez, la Seconde Guerre mondiale a nécessité un engagement très fort des États occidentaux au soutien de l'économie de leur nation. Et au début des années 70, avec des dettes, déjà des dettes générées souveraine. Par des guerres extérieures, dettes souveraines américaines, l'administration Ford, la première, ce que Alan Greenspan a écrit dans ses mémoires, l'administration Ford, avant l'administration Reagan, réfléchissent à une déréglementation de l'économie américaine. Et ces premiers mécanismes de déréglementation de l'économie américaine vont créer le néolibéralisme. Alors, quel en est le substrat idéologique ou analytique? L'État, en intervenant, asphyxie l'initiative privée. L'État est un mauvais arbitre de la création de la richesse. Ce qu'il fait défait ce que peut faire bien mieux une société sur le marché. Donc on va déréglementer, on va privatiser, on va démembrer tout ce qui a été constitué à l'après-guerre pour sauver les économies et on va donner le mot final au marché. Et c'est ainsi que, évidemment, avec Reagan, d'importants mouvements de déréglementation. Déréglementation, ça veut dire que dans un secteur économique déterminé, on ne fait plus la loi des partis ou la loi du milieu par des règles, on déréglemente. On la fait par le libre jeu des acteurs. Simplement, ces acteurs sont dits régulés, c'est-à-dire qu'on met dans chaque secteur une autorité de régulation, un gendarme. Et c'est ainsi que la déréglementation s'est accompagnée d'une régulation des secteurs économiques considérés. Et ça, c'est évidemment un virage qui s'est fait. Mais alors, d'un point de vue purement, comment dirais-je, économique, mathématique et probabiliste, on est totalement loin de toute philosophie politique. L'ouvrage sur la liberté de Milton Friedman, que je cite et que j'ai relu avec beaucoup d'attention, il est sur la partie de la liberté politique d'une naïveté, mais terrible. À l'opposé, sur le plan de la liberté économique, il montre que la monnaie peut, etc., etc. Ainsi, dans ce virage de la révolution néolibérale américaine, on voit une sorte de prêt-à-porter de l'économie mondiale et qui aurait pu en rester à une simple expérience s'en tenant aux seules frontières de l'Occident s'il n'y avait pas eu la chute du mur de Berlin. Parce que ce qui fait le néolibéralisme, c'est un deuxième événement juste après la révolution américaine, enfin, la révolution de Reagan. Reagan, c'est 78, Thatcher, 79. On est 10 ans avant la chute du mur de Berlin. Pendant 10 ans, ce libéralisme de la déréglementation, il n'est fait que sur une partie de la Terre. Et puis, avec la chute du mur de Berlin, le néolibéralisme, il va avoir deux choses. Un, il perd tout contradicteur. Deux, il gagne de nouveaux territoires. Et à partir de là, il est sans limite.
À ce moment-là, c'est la fin de l'histoire. Nous sommes arrivés au stade terminal de l'histoire où le libéralisme est la seule solution du seul monde unifié et mondialisé qui est le nôtre.
Enfin, quand on regarde le mouvement du soleil, on s'aperçoit que très très loin en Orient, certaines puissances se lèvent qui sont en train de réécrire un recommencement de l'histoire. Mais je veux dire que, indiscutablement, la chute du mur de Berlin a donné au libéralisme le sentiment qu'il avait eu raison, définitivement raison, de son contraire, marxiste ou socialiste, et socialiste, et puis qu'il avait de nouveaux territoires à conquérir. Et moi, je l'ai vu dans mon activité d'avocat d'affaires international, j'ai vu dans tous les pays du monde, ces bons presbytériens de la Banque mondiale arriver avec des codes du commerce, des codes de la concurrence, des codes pénaux, tout fait, et que devaient, dans un souci de convergence, adopter des économies pas du tout préparées. Et on arrive au ravage de la fin des années 2010, et on est évidemment de plein pied dans la crise que nous traversons, et qui est une crise évidemment très dure pour l'héritage libéral. Parce que la première tentation est de dire « tout ça, c'est la faute du libéralisme ».
Ce qui n'est pas complètement faux.
Il y a beaucoup de sens. Et alors, il est difficile d'essayer d'apporter des nuances et puis surtout de faire la leçon aux libéraux eux-mêmes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le libéralisme a fait notre monde, que la crise de notre monde doit beaucoup au libéralisme. Mais alors, pour mieux comprendre comment le dépasser, je pense qu'il faut relire tous les auteurs qui, depuis plusieurs siècles, en ont bâti les règles pour essayer aujourd'hui de corriger au mieux ce qui a été mal fait et peut-être d'essayer de trouver des dépassements possibles.
Justement, ça tombe bien, vous avez relu ces textes-là, vous nous les donnez en anthologie dans votre livre. Alors comment est-ce que vous, vous voyez, vous qui vous êtes ressourcé à tous ces textes-là et à ces libéraux d'origine, comment est-ce que vous voyez une nouvelle synthèse libérale, un nouveau monde, un New Deal libéral qui viendrait juguler les ravages que nous connaissons, la crise que nous connaissons, la mondialisation uniformatrice que nous connaissons? Quelles sont les lueurs d'espoir ou quelles sont les lueurs de révolution, de réforme, de modification que vous pouvez nous indiquer comme étant autant d'éléments d'antidote face à ce virus libéral qui est venu d'une certaine façon gangréner le libéralisme lui-même?
Alors il y a plusieurs pistes. Il y a d'abord des pistes purement programmatiques. On va faire revenir les États. Alors évidemment, leur premier retour a été un tout petit peu dépensier, puisqu'on a pour héritage des plans d'intervention et de relance de 2008, les dettes souveraines de 2011. Mais bon, c'est une première piste, c'est rééquilibrer ce qui revient à l'État et ce qui revient au marché, dans la vie d'une société et d'une économie. On a aussi une deuxième piste qui est celle de l'appel au devoir. Il faut faire comprendre aux sociétés qu'elles se bâtissent sur un équilibre entre les droits et les devoirs, et qu'on ne peut pas simplement finir l'histoire à demander toujours plus. Il y a aussi à donner soi-même, et à donner en partageant, et à donner en cessant d'exagérer ce qu'on demande aussi. Enfin, plus pratiquement, je pense que, je le disais à l'instant, et c'est une de mes réflexions en ce moment, je pense qu'il faut retravailler la relation gouvernant-gouverné. Elle va être capitale dans les années qui viennent, au sein des démocraties libérales. Je le répète, ces démocraties reposent essentiellement sur l'individu et donc dépendent énormément de son comportement. Si, parmi ceux-ci, ceux qui sont aux responsabilités ne donnent pas l'exemple, on ne peut plus alors vraiment espérer de la démocratie elle-même. On dépasse le sort, le destin ou la conclusion du parcours de la pensée libérale. Là, on est au cœur de notre politique moderne. Et je pense que l'une des bonnes contributions d'un libéral honnête du XXIe siècle sera peut-être, dans les années qui viennent, de réfléchir à ce statut de l'exemplarité, parce que finalement, quand on regarde a posteriori sur ce sujet précis du contenu du comportement des responsables, très peu de choses ont été écrites en Occident. La pensée politique occidentale, elle a été essentiellement focalisée sur des questions de souveraineté. Puis, quand on avait établi l'incontournable et incontestable souveraineté populaire doublée de la souveraineté nationale, c'est un peu subtil, mais c'est grosso modo la même filiation. Ensuite, cette pensée politique s'est abîmée, s'est limitée au régime constitutionnel. Mais le statut et les règles applicables au comportement des acteurs n'a pas été beaucoup réfléchi. À l'opposé, dans certaines civilisations d'Orient, je rentre de Chine, vous avez un vrai héritage philosophique qui interroge le comportement de l'homme. Par exemple, Confucius, en Chine, a clairement élaboré toute une pensée de la relation de l'individu à l'État qui exige de la part de celui qui est à la tête de l'État un comportement qui noue une relation de bienveillance et d'intelligence avec ceux qui sont gouvernés par lui. Je relève aujourd'hui, je l'ai vu en Chine, quand j'étais en Chine il y a quelques jours seulement, que l'un des best-sellers chinois aujourd'hui est une redécouverte de Confucius, c'est-à-dire une redécouverte de celui qui a peut-être le mieux écrit sur le comportement exemplaire de l'individu. Je rappelle que Confucius, pour terminer peut-être par là, était un contemporain de Platon. Mais alors que Platon raisonnait déjà sur une philosophie très abstraite de l'individu et de l'organisation de la cité, son contemporain oriental, quant à lui, voulait d'abord trouver le juste ton dans le comportement d'un homme. Ne faudra-t-il pas plutôt regarder cela, c'est-à-dire nos lumières d'Orient nouvelles, que ceci, c'est-à-dire notre passé européen entêté, pour découvrir de nouvelles marges, un nouveau socle, un véritable nouvel avenir de la liberté.
Mais Michel Guéner, nous allons terminer là-dessus, donc en renvoyant les auditeurs sur cette anthologie, donc avec une grosse introduction d'une centaine de pages où vous refaites cette histoire, et puis tous les textes que vous nous donnez à lire et à méditer, qui nous permettront, je l'espère, de ressaisir ce projet libéral et de le conduire vers une exemplarité que vous appelez de vos voeux et qui sera sans doute l'objet d'un prochain livre et, je l'espère, d'une prochaine réunion sur Canal Académie. Donc, Michel Guéner, merci. Et donc, je renvoie nos lecteurs à votre livre « Les deux libéralismes » publié chez Perrin. Merci.
Merci.